Salut, ça va ?
Hello, vous écoutez Salut, ça va ?
Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur takecare.co.
Bonne écoute ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un épisode du podcast Salut, ça va. On va parler aujourd'hui de l'imperfection et comment accepter cette imperfection. Le fait de ne pas toujours faire tout parfaitement, de ne pas considérer que ce qu'on fait est mauvais ou nul ou inachevé à partir du moment où on n'a pas atteint des standards ou des exigences plutôt élevées. Je pense que cet épisode fera pas mal écho à l'épisode justement sur l'exigence élevée qui vous avez beaucoup, beaucoup plu et fait réagir. Je me suis dit que c'était un petit complément qui pourrait être intéressant. Je suis pas sûre que cet épisode dure très longtemps, mais c'est toujours des pistes de réflexion qui me viennent au fur et à mesure des événements de la vie et qui me paraissent intéressantes à partager avec vous, comme d'habitude. Je vous invite à réagir en commentaire sous les posts Salut ça va sur le compte Instagram Takecare ou par DM si vous préférez sur mon compte. C'est toujours un plaisir d'échanger autour de tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, on va parler de l'imperfection et du fait de se libérer justement de ce besoin de résoudre tous les problèmes et surtout au-delà du fait de résoudre, en tout cas d'effectuer les tâches de manière parfaite et d'être un petit peu dans cette vision du tout ou rien, c'est-à-dire soit ce que je fais est parfait, soit c'est nul à partir du moment où il y a même une petite chose, un petit grain de sable dans l'engrenage. On a cette vision souvent et notamment quand on a des exigences plutôt élevées et un regard sur soi-même un peu difficile, on a tendance à ne pas accepter que ce ne soit pas complètement carré ou que ça n'aille pas exactement comme on le souhaitait. Et donc, on développe une intolérance finalement à justement tous ces petits changements, ces petites adaptations. Et j'avais envie de vous donner mes pistes de réflexion sur comment peut-être apporter un peu de nuance dans tout ça et se lâcher un peu la grappe, parce que c'est un peu l'idée, quoi. Se foutre la paix sur cette notion de productivité tout le temps, de réussite, de perfection, d'être dans la compétition avec soi-même ou même avec les autres. Et quelque part, c'est quelque chose qui est complètement naturel parce qu'on a toujours été confronté à cette mise en compétition, à la comparaison, au regard des autres, notamment à l'école. On se souvient des notes qui étaient dites à voix haute devant la classe, les classements des moyennes, d'être vraiment dans cette représentation finalement de la réussite et de notre personne, c'est-à-dire que ma valeur est liée à mes performances. Et donc plus je réussis, plus je suis quelqu'un de bien, plus je suis quelqu'un de respectable, plus je mérite d'être aimé. Et ça peut aussi être induit par les comportements de nos parents et des personnes qui ont été ressources dans notre éducation, dans notre environnement, où on a eu quelque part de l'attention, de la valeur, et on nous a accordé du temps et de l'intérêt uniquement quand ce qu'on faisait était particulièrement bien réalisé et qu'il n'y avait justement pas d'imperfection. Rien que ce mot, déjà, il est tellement connoté de façon péjorative. J'ai noté quelques petites choses. Autant dans les derniers épisodes, il y avait des moments où j'étais plutôt en freestyle, autant là, j'ai noté quelques petites réflexions, notamment le fait d'être dans l'autocompassion. C'est tellement important au quotidien de repérer le vocabulaire qu'on utilise pour parler de soi, pour parler de ses réalisations, pour parler de même qui on est, ce qu'on représente, de nos erreurs, de nos maladresses, et se considérer comme un ami. Parfois, je pense que si on faisait l'exercice de s'enregistrer au quotidien sur nos mots, sur la façon dont on réagit à nous-mêmes ou sur nos pensées, hein, surtout parce qu'on n'est pas forcément obligé de parler à voix haute, et qu'on écoutait cette bande sonore et ses ruminations ou même ses pensées parfois intrusives nous concernant, on serait peut-être étonné de voir la violence et le vocabulaire et le champ lexical qu'on utilise pour parler de nous-mêmes et la façon dont on peut être extrêmement dur, jugeant envers nos capacités, nos réalisations, qui on est. Et on ne se permettrait jamais de parler comme ça d'une personne qu'on aime, d'un ami, d'un proche. Et donc surveiller ces injonctions-là, surveiller son langage, la façon dont on s'adresse à nous-mêmes, ce qu'on se répète à longueur de journée, c'est hyper important parce que ça conditionne aussi la façon dont on se voit, la façon dont on se considère et surtout cette intolérance qu'on peut avoir envers nous-mêmes. L'autocompassion, ça se travaille, surtout quand on n'a pas baigné justement dans des paroles forcément rassurantes, dans cet amour inconditionnel, peu importe ce que vous réussissiez ou non. On ne vous a pas forcément appris à gérer vos émotions, à être dans une relation quelque part sans attente. C'est difficile de développer envers nous-mêmes du coup cette compassion. relation et on est souvent très dur envers ce qu'on ne réussit pas. On a surtout tendance à pointer nos échecs plutôt que de célébrer nos victoires. Et un autre point de ce que j'ai noté dans ma liste de petites réflexions pour justement accepter l'imperfection, mais je pense que l'autocompassion est un point hyper important et un socle central de cette capacité petit à petit à accepter nos erreurs et nos maladresses et nos imperfections et justement le pas trop parfait. Ça induit forcément mon deuxième point qui est de travailler sa flexibilité. Alors on ne parle pas du grand écart, non, ça me rappelle de très mauvais souvenirs de cours de danse. Non, sa flexibilité plutôt mentale et cette remise en question de nos croyances justement et des pensées. Déjà les identifier, parfois au quotidien on se rend compte qu'à certains moments, certains triggers, certains événements, certaines tâches, on se rend compte qu'il y a des pensées qui sont un peu automatiques, où on va se dévaloriser, où on va utiliser un adjectif particulier. Ça peut être sur plein de sujets, ça peut être quand vous êtes en train de vous habiller, ça peut être quand vous ratez quelque chose, dans le sens où vous n'avez pas fait exactement ce que vous attendiez de vous-même, la façon dont vous vous jugez sur vos connaissances, dans une discussion par exemple, ça peut prendre plein de formes. Mais justement, cette remise en question de ces croyances, elle passe par déjà une identification de ce qui revient de façon récurrente dans vos pensées. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment ça se traduit dans votre corps? Est-ce que vous ressentez des sensations physiques particulières? Est-ce qu'il y a des émotions qui se dégagent? Est-ce que c'est en présence de certaines personnes? Est-ce que c'est dans des lieux particuliers? D'être vraiment dans cette identification dans un premier temps pour pouvoir ensuite restructurer, bien sûr, vos pensées, émettre des hypothèses alternatives, etc. Ça, c'est tout un travail qui peut être fait notamment en thérapie avec des professionnels qui utilisent des outils TCC, etc., qui peuvent être aussi faits par vous-même, hein, si vous vous en sentez capable, dans le sens où ça vous submerge pas trop au quotidien et que c'est pas trop envahissant et que vous pouvez du coup commencer ces exercices par vous-même. Mais cette restructuration, elle permet à un moment donné justement de travailler cette flexibilité mentale, de remettre en question ce que vous vous dites comme de vérité en fait, parce que très souvent quand on a des pensées et qu'on se dit « ah là je suis nul », on pense vraiment qu'on est nul. Or la réalité fait que nos pensées ne sont pas des juges, ce sont parfois de très mauvais guides, parce que nos émotions et nos comportements qui y sont associés ne sont pas basés sur des faits mais sur des opinions. Le fait que par exemple vous arriviez pas à faire un plat que votre grand-mère vous fait depuis petite et que vous teniez vraiment à reproduire, etc., ne fait pas de vous quelqu'un de nul. Pour autant, c'est ce que vous pensez profondément. Et donc, il faut venir aussi challenger ces pensées-là, émettre d'autres hypothèses, avoir un discours justement différent, bienveillant, de compagnon aimant à vos côtés. Et donc, cette flexibilité que vous travaillez petit à petit, elle permet, encore une fois, d'entraîner son cerveau à ne plus répéter les mêmes chemins de pensée et les mêmes fonctionnements dans des situations qui se répètent au quotidien. Et ça peut être, à mon sens, quelque chose de vraiment intéressant d'identifier. Moi, je sais que, par exemple, ça va être tout ce qui est lié à la maladresse. Je suis extrêmement maladroite, et vous voyez, rien qu'en le disant, je suis maladroite, ça y est, je me définis, voilà, je suis maladroite, je serai toujours maladroite. Mais toujours est-il que du coup, au quotidien, depuis des années, j'ai toujours été hyper jugeante envers moi-même sur mon incapacité à gérer mon corps dans l'espace. Je me cogne en permanence, je passe une porte, la moitié de mon corps reste de l'autre côté de la pièce, hein, puisque vraiment, je suis pas capable de viser à l'intérieur de la porte. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, et mes proches, s'ils tombent sur cet épisode, je pense auront le sourire aux lèvres, parce que c'est un peu devenu le gag, mais j'ai du coup développé des pensées parfois très jugeantes autour de cette maladresse, etc. Et donc de challenger et de me rendre compte, surtout d'identifier les pensées automatiques qui pouvaient se générer et les mots que je disais même à voix haute, hein, et que je dis encore parfois à voix haute concernant justement cette maladresse, et me dire attends, à chaque fois que tu te cognes quelque part, tu as mal, et en plus tu te blâmes. C'est-à-dire que imagine si ton fils tombe dans la rue, est-ce que tu te verrais lui dire ce que tu te dis à toi-même? Jamais de la vie, je trouverais ça insensé, ça manquerait cruellement d'empathie et quelque part je serais beaucoup plus préoccupée par ce qui vient de se passer, ses ressentis, s'il a mal, etc. Et je serais pas en train de lui dire oh là là mais regarde, je te l'avais dit, marche plus droit, fais attention, machin, etc. Et pourtant c'est ce que j'avais l'habitude et j'ai toujours l'habitude de me dire. Donc de challenger ces pensées-là en me disant j'identifie que ça arrive à tel moment, mais ce que je me dis dans ma tête n'est pas forcément une réalité et je peux avoir un petit peu d'amour envers moi-même, ça permet, je trouve, de travailler justement sur cette remise en question de nos croyances. À chaque fois que je fais des épisodes où je note des points, est-ce que vous avez l'impression que je vais très lentement de point en point? On est qu'au point numéro 2, les amis. Donc il faut qu'on avance. J'ai noté ensuite dans les petits tips qui me paraissaient pertinents de prioriser les domaines importants de notre vie pour focus son énergie sur ce qui nous importe le plus. Parce que, encore une fois, à mon sens, c'est pas pas nécessaire de se dire bah, voilà, je vais me changer, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Alors ça, c'est vraiment le terme le plus terrible. Et je l'ai peut-être employé d'ailleurs à un moment donné, mais maintenant avec le recul, plus j'avance dans ce cheminement, plus je me dis que c'est quand même un peu du n'importe quoi, parce qu'on est on n'est pas des versions, on n'est pas des iPhones, on n'a pas à se mettre à jour en fait, hein. On est qui on est, on avance avec nos bas, nos hauts, nos connaissances de nous-mêmes, notre connaissance de nos fonctionnements, de nous-mêmes, et ça fluctue, et on n'est pas en version 2.0 à chaque fois qu'on décide de faire de la méditation ou de pratiquer le yoga. Voilà, c'est un peu ce qui est induit dans le dev perso, et ça me gonfle, donc c'est un peu mon coup de gueule. Bref, je reviens sur mon idée de prioriser. Prioriser les domaines importants, c'est le fait de se dire qu'on ne va pas se changer, on ne va pas ne plus être exigeant, on ne va pas ne plus mettre de l'intensité et du perfectionnisme dans ce qu'on a envie de faire, mais c'est focus son énergie sur ce qui nous importe vraiment. J'entends par là que il est très peu probable que tous les domaines de votre vie soient investis de la même façon, et surtout que tous les domaines de votre vie vous apportent autant de joie, de plaisir, etc. Alors on est bien d'accord, on peut pas faire seulement ce qu'on aime, sinon ce serait beau pour tout le monde, mais je pense que ce serait un peu utopiste. Toujours est-il qu'il y a quand même des sujets et des choses qui nous importent particulièrement. Et j'en parle beaucoup dans l'épisode justement sur l'exigence, où je dis que voilà, j'ai pas décidé d'être moins exigeante, j'ai décidé d'utiliser mon exigence à bon escient, en l'investissant dans des choses qui m'importe réellement, et pas sur des choses qui deviennent des lubies pour lesquelles en réalité, en prenant du recul, je me dis je suis pas certaine que c'était quelque chose qui profondément m'apportait de la joie et du bonheur, et toute cette énergie que j'ai consacrée, est-ce que vraiment j'ai la sensation que ça m'est apporté quelque chose, dans le sens que ça m'est fait du bien, quoi, pas forcément dans le côté réussite encore une fois, hein, puisqu'on essaie de se détacher de ça, mais plutôt dans le côté est-ce que j'ai pris plaisir à le faire, et est-ce que la finalité c'est que j'ai passé un bon moment, ou en tout cas que j'ai eu l'impression que ça m'apportait quelque chose, quelle qu'elle soit. Ça peut aussi m'apporter de la sérénité, ça peut m'apporter de la sécurité, enfin je veux dire, on peut remplir beaucoup de besoins, on n'est pas forcément dans quelque chose de matériel et de productif, hein, c'est pas l'idée, mais simplement de se dire ok, mon énergie, ce perfectionnisme là qui peut être un avantage dans plein de domaines de la vie, où est-ce que j'ai envie de le centrer, où est-ce que j'ai envie de l'utiliser, comment est-ce que je veux focus mon énergie et ses intentions. Ça peut être dans un projet qui vous tient à cœur, ça peut être dans une cause, ça peut être auprès d'une association, ça peut être dans la façon dont vous allez, je sais pas, tenir votre dressing. Ça peut être aussi des petites choses de la vie, hein. On n'est pas obligé de faire des grands projets tous les 4 matins, mais en tout cas de choisir et de prioriser les domaines pour lesquels on a envie de consacrer son énergie, et déterminer ce qui nous importe le plus dans les différents domaines de notre vie. Ça me paraît être un premier step intéressant justement pour aller vers ce chemin d'acceptation de l'imperfection. Bien sûr, je vais utiliser une expression bien galvaudée, qui est le lâcher prise, mais c'est l'idée avec laquelle on deal quand on souhaite justement accepter cette imperfection, et accepter que tout ne peut pas être contrôlé. C'est vraiment plus l'idée là dans ce que j'ai voulu évoquer par le lâcher prise, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, que le passé est passé, le futur est futur, et que la seule action que vous avez réellement c'est sur le présent, et qu'en stoppant justement les hypothèses et les scénarios infinis, ça nous permet de se détacher aussi d'une forme de perfectionnisme d'anticipation en fait, qui peut s'apparenter à de l'anxiété, et encore une fois quand c'est trop envahissant, il faut vraiment pas hésiter à se faire aider, accompagner là-dessus, parce qu'on peut facilement trouver des outils et des solutions pour justement apaiser et améliorer son bien-être au quotidien. Mais ce lâcher prise, il rentre en compte à mon sens vraiment dans cette volonté d'accepter l'imperfection, parce que quand vous pouvez pas contrôler les choses, quand d'autres personnes prennent en charge, et ben forcément ça ne va pas forcément se dérouler comme vous l'attendiez, mais ça veut pas dire que ce sera moins appréciable. Et c'est accepter cette nuance entre la responsabilisation que vous incombez sous prétexte que vous préférez vous juger vous si ce n'est pas parfait plutôt qu'un autre. Souvent, et c'est marrant parce que suite à l'épisode sur l'exigence, il y a eu beaucoup de retours et j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous qui me disaient mais je me suis tellement reconnue dans cette idée de prendre en charge et de prendre sur mes épaules et d'avoir la responsabilité de beaucoup de choses dans mon entourage, auprès de mes potes, de mon couple, de ma famille, etc. parce que je préfère me blâmer moi si c'est pas exactement comme je veux, plutôt que de voir subir l'imperfection des autres. Et donc ce lâcher prise, et justement en travaillant cette flexibilité mentale, cette compassion et la priorité de ce qui mérite votre temps, votre intention, votre énergie, on a la possibilité quelque part de lâcher prise sur ce qui ne peut pas être contrôlé par vous, au-delà de simplement les scénarios qu'on peut s'imaginer et qu'on peut ruminer, évoquer dans nos vies, dans nos quotidien, etc. Ça, on sait qu'on le fait tous, et surtout quand c'est des événements qui sont stressants, on a tendance à très facilement partir dans ces réflexions un peu infinies. Et c'est de faire cette distinction entre finalement ce que vous avez réellement envie d'investir en termes d'énergie, encore une fois, et de priorité dans les domaines de votre vie, et la responsabilité que vous prenez malgré vous, quelque part, parce qu'il y a cette peur de l'imperfection qui finalement est tellement grande et présente qu'on s'oblige à porter des choses et des responsabilités qu'on n'aurait pas forcément eu si on n'avait pas quelque part cette envie de très bien faire et de faire mieux qu'eux, et par peur finalement que ce ne soit pas exactement comme on l'avait imaginé. Ça m'amène à parler d'un sujet qu'on a pas mal abordé, notamment dans les premiers épisodes de Salut ça va, sur la gratitude et sur les petites victoires de la vie. Quand on est focus sur la perfection et sur le fait de devoir tout réaliser de façon exacte, parfaite, carrée, on a du mal parfois à se concentrer sur les petites choses, les petites joies du quotidien, et accepter les petites victoires plutôt que les gros objectifs. Et c'est un entraînement de cultiver la gratitude au quotidien. Ça passe pas forcément par être reconnaissant de tout ce qui nous arrive dans la vie, etc. Il y a des jours où juste c'est hyper difficile de reconnaître les petites victoires et la gratitude parce qu'on a juste passé une mauvaise journée et qu'on a l'impression que tout va mal, et voilà, c'est ok, hein. On a tous des journées où on n'a pas forcément envie de se poser et de lister nos gratitudes, on est bien d'accord, mais s'entraîner au quotidien permet, même dans les moments les plus difficiles, même dans les journées les plus complexes, d'identifier des petites choses, des toutes petites choses qui vont apporter un petit peu de joie et de nuance à ce qu'on est en train de vivre. Et surtout, ça va concentrer notre attention et notre cerveau, ça nous entraîne à aussi valoriser les petites choses quelque part inattendues, les petites choses qui constituent l'instant présent, le moment présent, ce que vous êtes en train de vivre, et non pas la réalisation de grandes tâches très normées, très centrées, très parfaites, comme vous avez l'habitude peut-être d'exécuter au quotidien. Donc ça peut être une chanson qui passe à la radio qui vous plaît, un rayon de soleil, une fleur que vous trouvez jolie dans un champ, un feu qui passe au vert au moment où vous vous apprêtez à arriver sur la route, quelqu'un qui vous laisse la priorité quand vous voulez traverser sur le passage piéton. C'est des petites choses de la vie qui font plaisante et qui amènent un petit moment, une petite étincelle, un petit instant de « Ah, c'est sympa !»« Ah, c'était bien !» Ah, ça m'a apporté de la joie. Ah, ça m'a donné une petite respiration dans ma journée. Ah, j'ai vu quelqu'un sourire. Ah, je suis arrivée à la pompe à essence, il n'y avait personne. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui constituent notre quotidien, qu'on ne remarque pas forcément, mais qui peuvent nous apprendre aussi à se concentrer sur ces petites choses de la vie qui font les grands bonheurs. Et pas simplement considérer notre valeur ou apporter de la valeur aux événements qui sont grandioses et qui sont encore une fois parfaits. Et dans une journée pleine d'imperfections, et ben ces petits moments-là vont être soulignés et vous apprenez petit à petit à votre cerveau à vous dire que dans les instants de vie qui sont pas forcément tout lisses, qui sont pas forcément tout carrés, que vous ne pouvez pas contrôler, il se passe des petits imprévus qui constituent des journées plus belles et de la joie, et qui vous génèrent des émotions agréables. J'avais aussi envie de vous parler de l'échec et de comment quand on vit un échec, en tout cas ce qu'on considère comme un échec, et très souvent quand on est dans des personnalités qui accordons beaucoup d'importance justement au fait de bien faire et d'être dans l'exigence de nos réalisations, etc., on peut trouver très facilement des raisons de penser qu'on a beaucoup d'échecs et qu'on a raté beaucoup de choses, etc., à partir du moment où c'est pas parfait. Mais justement, trouver l'opportunité dans ce qu'on considère comme des échecs et ne pas y voir une fin en soi. Je trouve que c'est aussi un moyen d'accepter cette imperfection et de travailler sur tous ces sujets, parce que l'échec n'est pas une fatalité et qu'il y a beaucoup d'apprentissage en fait autour des échecs, et encore une fois de ne pas voir ça comme le fond du tunnel, là où on mettrait un mur en se disant voilà, ce chemin de toute façon il est condamné parce qu'il y a eu un échec, donc on passe au chemin suivant, mais plutôt de voir ça comme un obstacle qu'on a réussi à contourner, qu'on réussit à franchir, qu'on réussit à déconstruire pour pouvoir continuer sur ce chemin, et se retourner parfois en se disant tiens, c'est vrai que ça je l'ai déjà fait et je vais pouvoir le refaire, et j'ai déjà échoué sur telle et telle chose, et je vais peut-être échouer à nouveau, mais j'ai réussi à passer au-dessus, donc là je vais aussi réussir à passer au-dessus et à y voir l'opportunité et à ce qu'on peut en tirer. Je suis pas là pour dire et pour être dans l'injonction de se dire en gros ce qui me tue pas me rend plus fort, hein. Pas du tout, parce qu'il y a des choses qui sont tragiques et sur lesquelles il n'y a pas d'opportunité à saisir, mais d'avoir en tête qu'il y a des possibilités parfois face à certains événements de la vie qui permettent de se retourner sur des vécus, sur ce qu'on considère comme des échecs personnels, pour en tirer des conclusions sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on a envie de garder auprès de nous, sur ce qu'on a envie de lâcher, et d'accepter petit à petit que ça fasse aussi partie de notre vie, de notre cheminement, etc. Et je pense que je terminerai là-dessus. Dans ce process, justement, de la vie et de réalisation, il y a un intérêt, à mon sens, de concentrer son attention sur le processus plutôt que le résultat. Ça augmente notamment la persévérance, ça peut augmenter cette possibilité à persévérer face à, justement, une difficulté, etc. Même si vous n'êtes pas forcément confronté à ce manque de persévérance. Très souvent, quand on est très exigeant, on est plutôt persévérant, mais c'est un autre sujet. Mais ça développe aussi d'autres compétences et surtout, ça nous force quelque part à apprécier le chemin et de pas simplement être dans la recherche de gratification et de valorisation par le résultat. Tout ce que vous traversez pendant la réalisation de quelque chose, ça peut ne pas être productif ou matériel, hein. Ça peut être un apprentissage de compétences, ça peut être une relation, ça peut être un imprévu, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, tous les moments de la vie qui font que on a en visibilité, on a en vision un résultat, en tout cas un début et une fin. Pendant cette période de latence entre le point A et le point B, on a souvent tendance à ne pas apprécier ce qui est en train de se passer et à vraiment être tourné vers la finalité, vers la fin, vers cet objectif, vers cette vision lointaine, en se disant mais vivement que j'y sois, vivement que j'y sois. Et on peut toujours être motivé par le résultat et par ce que ça va nous apporter, mais apprécier ce processus, surtout quand on est plutôt dans des démarches d'exigence envers nous-mêmes et qu'on a du mal à accepter le fait de ne pas être en gestion et de ne pas résoudre ce qui est en train de se passer, de ne pas avoir la clé de tout, etc. Et ben, c'est un apprentissage aussi de patience et de patience envers nous-mêmes, de tolérance. Et pour moi, ça se rapproche, hein, sous beaucoup d'aspects, à cette possibilité d'embrasser ce qui arrive et de ne pas être dans le contrôle, justement, de tout ce qui peut se dérouler sur ce parcours qui va nous mener, oui, certainement vers cet objectif, mais qui est aussi appréciable pour beaucoup de choses, notamment en termes de développement, en termes de compétences, en termes de persévérance, en termes d'appréciation, en termes de beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont vous nourrir tout autant, voire plus que le résultat final. Quand vous vous sentez nourri par toutes ces choses-là, une fois que vous arrivez au résultat, quelque part, peu importe le résultat, vous avez votre réservoir qui est bien rempli de plein d'autres choses et que vous avez apprécié durant ce processus. Et je trouve que c'est ce qui peut permettre aussi d'accepter cette imperfection, même si un projet n'aboutit pas, même s'il ne se déroule pas exactement comme vous avez envie qu'il se déroule, même si il se trouve imparfait et que vous lui trouvez des imperfections, le processus par lequel vous êtes passé pour le réaliser, pour l'appréhender, tout ce que vous avez traversé est tout aussi enrichissant. Et ça nous permet, à mon sens, d'avoir un peu plus justement de flexibilité et d'être dans l'auto-compassion par rapport à cette finalité et à ce résultat. Aussi imparfait soit-il, vous avez le droit aussi d'être fier de vous et simplement de vous donner une petite tape sur l'épaule en vous disant « t'as fait de ton mieux et c'est ok ». Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui autour de l'imperfection, d'accepter ses imperfections, d'accepter de ne pas toujours être parfait, parfaite, de ne pas toujours être au top, que ça ne veut rien dire de votre valeur et qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer et ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné quelques clés pour peut-être apaiser un petit peu des situations qui vous amènent à être très difficile et dur avec vous-même. Et puis j'ai hâte qu'on discute de tous ces sujets. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur TakeCare et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.